Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner en quelques minutes un éclairage sur une problématique ou un fait qui marque l'actualité cyber. Aujourd'hui, nous allons parler de la vulnérabilité OpenSSL qui fait trembler Internet. Je veux parler de Heartbleed. Donc avec moi pour discuter de cette problématique, nous avons Nicolas.
Bonjour.
Renaud.
Salut.
Et Jeff.
Coucou.
Alors messieurs, eh bien, j'ai envie de vous poser la première question, qui est de savoir qu'est-ce qui est en cause.
Eh ben, en fait, cette faille vient d'une fonctionnalité qui s'appelle du Heartbeat, ou autrement dit, on pourrait dire du Keep Alive. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui a été introduite dans OpenSSL pour permettre à un client et à un serveur de maintenir la connexion active entre eux, hein, donc la connexion SSL entre eux, même dans le cas où il n'y avait pas de données qui étaient échangées, hein, simplement parce qu'ils pensaient qu'à en avoir besoin. Donc voilà, donc c'est un Heartbeat, c'est un Keep Alive, ou autrement dit, c'est un peu un ping et un pong au niveau SSL. Donc ça permet de maintenir cette session et pas avoir à la renégocier X et X fois.
D'accord. Alors, quel est l'impact de cette vulnérabilité ?
C'est l'apocalypse, hein, globalement.
c'est un peu l'apocalypse.
Après la fin de l'XP. Bon, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que la fonction en question n'est pas remise en cause. C'est juste l'implémentation dans certaines versions d'OpenSSL suite à un commit qui est intervenu le 1er janvier à minuit. Mais bon, on ne commentera pas là-dessus. le serveur OpenSSL, en fait, renvoie une partie du contenu de la mémoire du processus distant. Et à partir de là, on peut trouver tout et n'importe quoi. Dans le pire cas, on peut trouver une copie de la clé privée du serveur qui se trouve dans la mémoire du processus Apache. Ça a quand même peu de chances d'arriver parce que c'est juste après le redémarrage du service si on est le premier utilisateur à se connecter, etc. Mais plus globalement, ce qu'on va trouver, c'est toutes les connexions, toutes les données de connexion en clair qui sont envoyées par les clients à un instant T et qui se retrouve dans le buffer du serveur. Donc, si on teste sur un site public, on retrouve des session ID, des paramètres de formulaire envoyés en poste, etc. On n'a pas vraiment le choix des données, mais enfin, vu qu'il n'y a absolument rien qui limite l'exploitation de la faille et qu'on peut surveiller tous les serveurs publics en permanence, on finira forcément par trouver des trucs intéressants.
D'accord, ok. Donc, à chaque fois qu'on exploite la vulnérabilité, on a accès à 64 kilos de la mémoire du serveur avec des données aléatoires.
Voilà, mais en général lié à des sessions TLS en cours et donc des données utilisateurs. Enfin, ça dépend après de l'utilisation du serveur, hein, parce que Apache est vulnérable, mais le VPN SSL de Juniper est vulnérable aussi. Enfin, potentiellement, tout ce qui fait du SSL est vulnérable, hein, il n'y a pas que les serveurs web.
D'accord. Alors, est-ce qu'il est facile d'exploiter cette vulnérabilité ?
Ouais, si on sait cliquer, ouais.
Je veux dire, si on maîtrise le clic droit et le clic gauche.
Ah,
et
le double clic aussi, ça peut être utile.
D'accord. Non, mais c'est dans Metasploit depuis ce matin, donc n'importe qui met, si c'est mettre à jour son Metasploit, il peut exploiter en ligne de commande.
Hein. Et il y a ce qu'il faut en termes de script, notamment en Python, et on a fait les tests de l'autre côté, ça marche nickel. Hein.
D'accord, donc la vulnérabilité est très très facile à exploiter. Alors,
Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est assez particulier, c'est que tu exploites la vulnérabilité, mais c'est ni vu ni connu, tu n'as rien dans les logs du serveur web, tu n'as aucune trace que tu as quelqu'un qui est en train de te pomper ta mémoire par paquet de 64 kilos.
Ah, tiens,
ça aussi, c'est pas mal, ça.
Bon, ouais, on peut peut-être un peu développer. Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien, justement, dans les logs Apache ?
Ça n'a pas été prévu. C'est pas un access log ni un error log.
D'abord, c'est pas
oui, c'est pas Apache. Bonne remarque, c'est pas Apache.
Ouais, d'accord. Donc c'est en fait un échange au niveau SSL et donc on retrouve rien du tout dans les logs Apache. On est vraiment
Peut-être OpenSSL en mode debug qu'on trouve partout en production. On monitore les logs en temps réel.
Ah ben, il me semble que ça arrive parfois hein, des serveurs avec OpenSSL en mode debug. Pour retrouver quelques problématiques et puis après on oublie un mille serveurs en mode debug.
Oui, enfin, tu sais, à moins que tu aies l'espace disque infini, tu finis par te... enfin, le serveur finissera par se rappeler à ton bon souvenir.
Ah, il peut y avoir des mécanismes de retête qui permettent de ne pas s'en rendre compte.
Bon, enfin bon, c'est pas parce que le mec a une mauvaise pratique de laisser un truc en debug sur sa production qu'il faut l'encourager.
Hein. Ouais, exact. Alors, qui est affecté par cette vulnérabilité?
Tout le monde.
La liste des sites est sur GitHub. Il y a quelqu'un qui a scanné Internet déjà. Enfin, globalement, Yahoo est affecté. Donc, Amazon aussi avait quelques instances affectées, mais je crois que c'est juste le load balancer qui était affecté, mais ils n'ont pas de chez aujourd'hui. Le VPN SSL Juniper est affecté. La téléprésence de Cisco est affectée. Enfin, je veux dire, non, Google, ils n'ont pas de chez aujourd'hui. Encore, ils avaient la faille avant tout le monde. C'est Google qui a découvert la faille à l'origine, hein, mais. ce qui s'est passé, c'est que il y avait un processus de correction en cours avec les principaux vendeurs, et en fait la faille a été redécouverte de manière indépendante par Codenomicon, qui eux ont fait un super site web, ont acheté un graphiste pour avoir un super logo, etc. Ils ont juste oublié de prévenir les distributions Linux majeures et les principaux sites internet qu'ils avaient trouvé une super faille.
Ah ouais.
Et donc, du coup, il y a eu une emergency release, mais Google est passé depuis des mois.
D'accord. Ah oui, donc c'est le fameux site Heartbleed. Ils ont pris le nom de domaine, d'ailleurs. Donc, pas mal de questions-réponses aussi sur ce site. Heartbleed.com, d'ailleurs, il me semble.
.org. C'est ça. Donc,
en ce qui concerne la remédiation, qu'est-ce qu'on peut préconiser?
En fait, il faut faire ça de manière méthodique. Comme l'a très bien dit Nico, il est possible que potentiellement même les clés aient été récupérées. Donc, 1, on patch. 2, on renouvelle les clés. 3, on change tout ce qui aurait pu être volé. Donc, potentiellement, tous les logins, mots de passe des utilisateurs. Ça sert à rien de le faire avant. Si on le fait avant d'avoir patché, ben, on pourra les récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le PFS n'était pas activé, on n'avait pas de mécanisme de PFS, de toute façon, toutes les données qui ont été échangées avant l'application du patch sont potentiellement décryptables et exploitables. Donc, faut considérer que tout ça, c'est perdu. En gros, il faut faire comme on avait l'habitude en informatique avant, se faire à l'idée qu'on a perdu des données chères et il faut recommencer from scratch.
Tu peux rappeler ce que ça veut dire, PFS, s'il te plaît, pour nos auditeurs?
Perfect Forward Secrecy. Ce qui fait que même si on a la clé, a priori, on n'arrivera pas à décrypter en dehors d'une session. On peut décrypter qu'une seule session, mais pas le reste.
Pour simplifier. La PFS, c'est la backdoor de la NSA. Hein. Enfin, plutôt l'anti-PFS. C'est-à-dire... Oh. Ah non, c'est avéré. C'est aujourd'hui,
vous êtes tous morts.
Non mais, attends.
Vous êtes foutus.
La PFS, c'est le seul truc qui te protège au cas où quelqu'un ait enregistré tout le trafic Internet. Et je ne parle pas que de la NSA. Hein. Tu vas dans une conférence, tu utilises le hotspot Wi-Fi ou tu vas dans un hôtel. Si quelqu'un a des backups de ton trafic avec Internet et qu'à n'importe quel moment dans le futur, il récupère la clé privée du site web avec lequel tu as parlé, il peut déchiffrer tout ton trafic a posteriori.
Exactement.
Et figure-toi que aucun logiciel basé sur la pile cryptographique fournie par Windows ne demande la PFS par défaut. Parce que la cryptographie Microsoft ne négocie pas la PFS. Donc si tu es sous Windows, que tu utilises un logiciel type Internet Explorer ou autre, tu n'as pas de PFS.
Diabolique. Mais cela dit, ça revenait effectivement à dire que si la PFS, en revanche, avait été appliquée, dans ce schéma-là, on aura un minimum de sécurité dans le sens où les données qui ont été volées ne sont pas forcément rejouées puisqu'on n'a récupéré qu'une clé à l'instant T.
Oui, si tu arrives quand même à extraire un login mot de passe d'un serveur,
Oui. Ah bah après...
Alors je crois qu'on a perdu une bonne partie des auditeurs.
Mais peut-être que si on avait un OTP...
Ouais, mais le truc, moi, j'ai eu cette réflexion. On m'a dit, ouais, on va. De toute façon, c'est en OTP. Mais le problème, c'est que quand un administrateur ou un utilisateur s'authentifie en OTP, effectivement, c'est même si l'OTP il pourra pas être réutilisé par définition, mais juste derrière, t'es authentifié. Qu'est-ce que tu récupères? Un cookie. Et le cookie, bah, il peut être capté via la faille Heartbleed. Hein.
C'est vrai.
Oui. Puis si ton cookie ou ton identifiant de session, il est valable un an.
Eh ouais.
Mais ça,
eh ouais.
On ne peut plus rien faire.
On ne peut plus rien faire, mais ça, c'est assez classique pourtant.
Attendez, je cherche un autre acronyme rapidement pour être sûr qu'on perde le dernier auditeur.
C'est DSA, DH.
Alors, moi, je suis en train de travailler sur les DDFA, c'est assez intéressant. Mais là, c'est carrément hors sujet.
Il semble qu'en matière de remédiation, on puisse, si jamais on ne peut pas patcher le serveur, mettre un équipement qui soit capable de détecter ou de bloquer l'exploitation de la vulnérabilité.
Bah, détecter, c'est comme d'hab. Hein. Si on va mettre un IPS qui a la clé, qui va déchiffrer le SSL, qui va trouver le pattern utilisé dans l'exploit le plus commun. Le mec qui fait un truc un peu avec une petite variante, ça va passer tout seul. Et comme le disait très, très justement Jeff, de toute façon, il y a la signature est super faible, quoi. Donc, autant dire que il faut se protéger de manière passive. Et c'est comme ça qu'on fait la sécurité. C'est on patch, on met en place des frontaux SSL qui sont patchés, puis voilà, quoi.
Ou bien on garde des vieux serveurs. Puisqu'en fait, c'est uniquement les versions récentes d'OpenSSL qui sont vulnérables. Donc, on remet des versions antédiluviennes.
Oui, pas patchées surtout.
Et en fait, ici, c'est assez marrant, c'est de voir que, on est dans une monoculture, quoi. On n'a que de l'OpenSSL, alors qu'il y a d'autres librairies. Il y a les PolarSSL, les GNU/TLS. C'est utilisé, ça ? Je peux faire un PolarSSL avec de l'Apache ou un GNU/TLS avec de l'Apache ? Actuellement, en fait, on fonce tous tête baissée dans de l'OpenSSL, hein, et c'est un peu mauvais. Et là, boum, pataquès. Hein.
Enfin, tu sais, personne ne va sur OpenSSL. Hein. Les gens, ils installent juste un Linux et ils prennent ce qu'il y a avec. Ouais. Et de toute façon, pour la SSL, à la limite, pourquoi pas, mais si tu vas sur un GNU/TLS, quand tu vois l'historique des failles qu'ils ont eues, je veux dire, la dernière faille, elle date du mois dernier, alors personne n'en a parlé parce que personne n'utilise GNU/TLS. Mais enfin, si tu as un certificat X509V1, il considère automatiquement que c'est une autorité de certification. Ah, ça la fout pas comme faille quand même. Hein.
D'accord. Et un autre point, c'est OpenSSL, ils sont financés comment ? Grosso modo, c'est un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de boîtes qui utilisent des technologies open source sans vraiment les financer, hein, directement ou indirectement. Ce qui est un peu déconnant quand même.
Ça, c'est vraiment scandaleux.
C'est scandaleux, ça. Hein. Wow. Non, mais fondamentalement, c'est un peu con, quoi. Enfin, c'est easy, c'est take it easy, mais de l'autre côté, c'est un peu déconnant, quoi.
Je pense que c'est choix stratégique de ceux qui ont voulu faire de l'open source. Ils ont voulu aider à améliorer le monde et on les en remercie.
Non, mais ça, c'est un peu franco-français comme remarque, parce que quand tu regardes l'argent que donnent des Google ou d'autres à des fondations open source, oui, type Mozilla. C'est vrai qu'en France, personne ne met un copec parce qu'on est habitué au gratuit. Mais aux États-Unis, ça pose aucun problème de donner de l'argent. Il y a quand même des circuits de financement. Et là, il y a des bug bounty sur tous les trucs open source qui sont sponsorisés par plein de boîtes américaines.
Et donc là-dessus, en fait, ça veut dire que les boîtes américaines sont plus matures sur l'importance et leur implication pour avoir des choses de qualité en termes de technologie open source. Les Français sont un peu à la ramasse, alors.
Bah déjà, les boîtes américaines ont plus d'argent de base, et puis les boîtes américaines font plus de technique. Hein. En France, on n'a pas de produits français, donc on n'est que des revendeurs. Mais les gens qui fabriquent les produits, eux, ils sont obligés de se poser des questions sur ce qu'ils intègrent.
Il y a d'excellents produits français.
Oui, on se sur des briques technologiques américaines.
Est-ce que vous pensez que des mécanismes de contrôle qui vont se développer justement pour essayer d'améliorer la qualité des logiciels qui sont massivement utilisés? Bon, là, on a par exemple une vulnérabilité dans OpenSSL. Demain, on imagine que si on avait une vulnérabilité dans, je sais pas, un protocole très très utilisé comme DNS, ça pourrait aussi remettre en cause les fondements d'Internet. Donc, est-ce que c'est logiciels open source qui sont massivement utilisés ne vont pas être un peu plus contrôlés, regardés
Attends, je pense qu'il ne faut pas confondre les problèmes d'implémentation et les problèmes de spécification. Il y a eu des failles dans DNS avec les histoires de Kaminsky, etc., où tu pouvais faire l'empoisonnement. Après, là, on parle d'une faille d'implémentation dans OpenSSL. Donc, effectivement, si tu as une faille d'implémentation, on va dire, dans OpenSSH, OpenSSL ou la pile IP de Linux, là, tu es mal, quoi. Mais après, ça n'a rien à voir avec des problèmes de spécification éventuels qu'il pourrait y avoir dans le protocole DNS, le TLS 1.2 ou autre.
D'accord.
Typiquement, si RSA est factorisé, on est tous morts. Mais bon, enfin, je veux dire, si le problème de la factorisation s'avère simple, on est tous morts, mais ça, ce sera indépendant de l'implémentation.
Je suis d'accord.
Très bien, messieurs, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter ?
Ah bah, c'est sûr qu'après ce coup-là, les conséquences ne seront plus jamais les mêmes.
Bonne remarque de Monsieur Renault.
Mais bon, on est habitué à cette 12e Armageddon cette année. Je pense que ça va, on va survivre.
Alors ça, je suis peut-être pas d'accord. Là, c'est quand même la première fois. Ah oui, c'est le 2e Armageddon. Il y avait XP Armageddon, mais c'était un mini Armageddon. Je pense que c'est par rapport à celui-ci.
Ah oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir.
Je pense que XP, ce sera plus douloureux dans la durée. Il y aura pas un gros pet, mais il y aura une augmentation du nombre de compromissions jusqu'à ce que tous les XP soient enrôlés dans un botnet. Par contre, là, OpenSSL, ça va durer quelques jours. Après, les fournisseurs majeurs seront patchés. Et après, on pourra plus rigoler qu'avec les imprimantes et les trucs bas de gamme, quoi.
Bon, eh bien, merci de votre attention. On va vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode.
C'est pas des promesses que tu peux pas tenir.
Dans un prochain épisode du podcast No Limit Sécu. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le blog et sur Twitter. À bientôt.
Salut.